Campus Bordeaux.
98.1.
Campus Bordeaux.
88.1.
Il est 13h et vous écoutez toujours Café Campus. On est en direct sur le 88.1 et c'est à présent le deuxième instant invité de ce Café Campus. Aujourd'hui, nous recevons en direct Ividor, docteur en psychologie et psychologue praticienne. Bonjour Ividor, comment allez-vous ?
Oh, merci Mélissa, je vais bien. Merci, je suis ravie d'être là. Merci encore pour cette invitation.
Mais plaisir partagé. Alors, on vous reçoit ici aujourd'hui dans le cadre de la parution de votre dernier ouvrage qui s'intitule « Mobilité, migration, repenser l'approche systémique à l'heure de la mondialisation », un ouvrage d'ores et déjà disponible. Et vous aviez déjà abordé la question de la migration, c'était en 2019, avec l'ouvrage « Le migrant et sa famille ». Est-ce que ce nouvel ouvrage, c'est une sorte de suite, d'un approfondissement dans la continuité de ce premier livre ?
Alors, donc, ce livre a été écrit par Maria Borcha et moi-même. Maria est une collègue, amie allemande qui travaille sur ces questions de migration depuis plusieurs années comme moi. Et en fait, ce livre, il complète, je dirais, le livre « Le migrant et sa famille » que j'ai écrit avec Odile Révérend-Coulon. Il aborde d'autres éléments dont on était dans l'idée d'aborder un petit peu les inattendus de la question de la migration. Dans le premier livre, on aborde la question du couple, la question des fratries. Enfin, c'est un livre assez dense et très intéressant, mais on ne peut pas tout aborder. Et puis, avec Maria, elle amène aussi cette lecture autour de la mondialisation, des technologies de communication et d'information qui changent quand même le panorama et qui change le profil de la migration. Et donc ça nous a permis à toutes les deux d'aborder les choses d'une autre manière. Mais je pense que les deux livres se complètent. Si on a envie d'avoir une bibliothèque qui aborde les questions de la migration dans le domaine de la psychologie, je trouve que les deux livres se complètent bien.
On entend beaucoup parler de migration, surtout dans les médias, mais le terme qui revient le plus souvent, c'est celui de migrants, les migrants, comme on entend si souvent, avec une déshumanisation qui se cache derrière ce terme qu'on emploie par commodité. C'est quoi un migrant aujourd'hui en 2023 ?
En fait, c'est vrai que ce terme est devenu un terme assez négatif. Il est souvent associé aux migrations économiques, même à la traversée malheureuse et hasardeuse de la Méditerranée, ou les migrations qu'on fait à pied en traversant différents pays au péril de sa vie, au risque de grandes violences. Mais vous verrez dans ce livre, l'idée pour nous, c'est que mobilité, migration font un tout quand même. Parce que ce qu'on va observer, c'est que une mobilité est une migration. Hein. Une mobilité, on va dire que l'expatrié vit une mobilité professionnelle. Donc c'est vrai que c'est comme s'il y avait des statuts ou des degrés de type de migration. Donc c'est... Quand c'est de la mobilité, c'est super, c'est top, c'est dans des conditions agréables, positives, on a un salaire, les choses sont préparées et tout ça. Et quand c'est de la migration dite économique, parce que je trouve de plus en plus à écouter les personnes venues d'ailleurs que cette migration dite économique est une migration qui cache souvent des problématiques relationnelles de place dans sa propre famille. Donc en fait, la question pour nous, c'est que... on va utiliser de manière invariable mobilité ou migration pour dire, en fait, c'est un phénomène qui est là, qui est présent. Et puis, dans le mot migrant, dans le mot migration, je trouve qu'il y a cette idée d'un mouvement qui ne s'arrête pas. Et ça, ça fait partie un peu de peut-être mes leitmotifs dans ces questions de la migration, c'est que la migration est un événement qui marque les familles sur plusieurs générations, certes, et la migration est un mouvement qui ne s'arrête pas pour le sujet. On est migrant à vie. Et donc, utiliser le terme immigré, émigré, signifie pour moi que ben, le mouvement s'est arrêté, je suis partie ou bien je suis arrivée. Mais dans l'idée de la migration, je trouve que c'est vraiment l'idée que le sujet, il continuera migrant. Il continuera migrant malgré le fait qu'il soit installé dans un autre sol, dans un autre territoire. Donc pour nous, le migrant, c'est quelqu'un de mobile qui est parti de chez lui, qui est allé dans un autre pays pour établir sa vie peut-être pour toujours ou bien pour un certain temps. Voilà. Donc, on va utiliser de manière un peu invariable les deux termes.
Et pour parler de l'approche plus psychologique de l'ouvrage, il y a le terme systémique dans le titre. C'est quoi une approche systémique ?
Alors, l'approche systémique, c'est un des courants de la psychologie qui va surtout travailler sur les questions de relations, de communication et de contexte à l'intérieur des systèmes. Donc, la famille est un système, le couple est un système, une association, une société est un système, un groupe de travail est un système. Mais, pour ce qui puisse paraître pour plus étrange que ça puisse paraître, un individu est aussi un système. Hein. Donc, dans l'approche systémique, initialement, les thérapeutes s'occupaient des familles et de couples. D'ailleurs, en 2017, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Thérapie systémique individuelle, une clinique actuelle ». Je suis venue ici pour en parler. Et dans ce livre, je raconte comment l'approche systémique s'adapte aussi au travail avec les personnes qui viennent en thérapie seules, avec les individus. Donc, systémique dans le sens où on s'occupe des systèmes. Et donc, en l'occurrence, ici, on va beaucoup parler du système famille ou du système famille, donc parents-enfants, ou du système famille parents isolés et enfants.
Dans le titre de votre livre, on retrouve également le terme et la notion de mondialisation. Pourquoi elle occupe une place importante dans la migration et ses mobilités ?
Parce que 250 millions de migrants dans le monde, c'est ce qui dit la Banque mondiale aujourd'hui, dans quelques années, 500 millions, il est presque délirant de penser qu'on va arrêter les flux migratoires et on voit bien que les pays se ferment de plus en plus leurs frontières, sont de plus en plus inquiets avec cette question de la mobilité des hommes et dans un monde mondialisé. Maintenant, pour être dans la, on va dire, confrontation de culture, en contact avec les cultures, on n'a plus besoin de se déplacer physiquement. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, on pense, avec Maria, on se disait, mais par exemple, les personnes qui ont fait elles-mêmes le déplacement migratoire, qui se retrouvent dans un autre pays, qui sont régulièrement en contact avec leur famille restée au pays d'origine. Ces familles-là, elles vivent une forme d'interculturation parce que elles sont en contact avec la culture française, ce qu'il fait, ce que tu manges, qui tu vois, les territoires que tu affrontes, que tu circules, dans lesquels tu circules, là où tu vas, etc. Donc ils se disent voilà, c'est quand même un petit peu de la France. Donc la mondialisation, elle est pour nous un élément très significatif sur le fait que les hommes se déplacent, les femmes se déplacent et on ne pourra pas arrêter ce déplacement. Et en dehors de ce déplacement, il y a toutes les technologies d'information et de communication qui font que cela se présente, une forme de migration à travers ces moyens-là. Donc, nous sommes dans un monde mondialisé. Et donc, ça arrive à nos cabinets de psychologues, de psychiatres, ça arrive dans nos institutions avec les associations qui travaillent à l'accompagnement des personnes venues d'ailleurs. Donc, nous devons faire avec cette réalité de la mobilité et donc de la mondialisation qui fait que la perception de l'autre, elle est aussi influencée par d'autres cultures, par d'autres apports. Je fais une mini parenthèse, mais je pense à des adolescents qui sont en relation amoureuse avec quelqu'un dans un autre pays. Je dis adolescent parce que c'est l'expérience clinique que j'ai, mais j'imagine qu'il y a des adultes aussi. Une personne qu'ils n'ont jamais vue, jamais rencontrée, physiquement. Et pour autant, ils sont dans une relation engagée, dans laquelle ils vivent une sexualité, etc., etc. Donc ça, c'est la mondialisation.
Et aujourd'hui, d'un point de vue psychologique, quels sont les principaux enjeux de ces mobilités, de ces migrations ?
Du point de vue psychologique, les principaux enjeux, déjà pour moi le principal, et je pense que ma collègue Maria Brocha, qui n'est pas là aujourd'hui, mais serait d'accord avec cette idée, c'est déjà que les professionnels tiennent compte de la différence culturelle, de la place que la culture prend au quotidien dans la vie du sujet, combien même elle est de l'autre côté de la frontière, elle est là aussi au quotidien. Il y a quand même cette idée de... C'est comme si ces technologies nouvelles, elles avaient réglé, ou en tout cas réussi à contourner une problématique même physique, qui est l'ubiquité. C'est-à-dire qu'on est là et on est là-bas en même temps. C'est impressionnant, on peut occuper deux espaces en même temps. Je suis ici, puis je suis en contact avec, par caméra, par vidéocall, avec ma famille au pays. Et puis on est même dans le langage, le discours. Je pense à une patiente qui dit « j'étais au mariage de ma sœur ». Mais j'ai dit « mais votre sœur, mais elle s'est mariée en Turquie ». ».« Oui, 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 mais j'étais avec le téléphone ».« Ah oui, d'accord. J'ai vu ma mère ce week-end ». Alors, vu ma mère, on imagine vu ma mère, donc je me suis déplacée et je l'ai vue physiquement. Mais en fait, j'ai vu par WhatsApp ma mère. Donc ça marche aussi. Donc c'est vrai que tenir compte de cette réalité-là sur le plan clinique, c'est très, très important. Très important, pardon. L'autre élément est de penser que cela impacte les relations sur plusieurs générations. Et donc, ce n'est pas que celui qui a fait le déplacement migratoire qui est pris dans l'enjeu de la migration, mais ses enfants, ses petits-enfants, ces générations-là, et puis là, les personnes restées au pays aussi, hein, ces générations-là sont impactées par un membre d'une famille qui part vivre ailleurs.
La migration, au final, c'est un phénomène tout à fait naturel. L'homme s'est toujours déplacé dans l'histoire en quête de lieux et de nouvelles terres d'accueil.
Mais oui, totalement. Et d'ailleurs, je l'ai cité, on a parlé avec Odile Révérend-Coulon dans le livre « Le migrant et sa famille ». Et on revient dans ce livre sur d'autres aspects, mais la pulsion viatorique, c'est une pulsion vital pour le sujet, tel que la pulsion de vie, la pulsion de mort, la pulsion sexuelle, la pulsion scopique. Enfin, c'est cette pulsion qui amène l'homme à aller vers un ailleurs, à essayer de savoir qu'est-ce qu'il y a au-delà des frontières, au-delà de l'horizon, derrière les montagnes. Cette curiosité-là, cet intérêt par l'autre et sa culture, ça anime les sujets, bien sûr.
Et quelles sont les raisons principales qui font qu'on devient migrant ? Est-ce que c'est cette quête de voir ailleurs, juste par curiosité ? Est-ce que c'est cette quête de trouver un environnement meilleur, de mettre à l'abri sa famille aussi ?
Alors, je pense que tout ça en même temps, hein, c'est-à-dire que il y a dans beaucoup de situations de migration l'idée de sauver sa peau pas que financièrement parlant ou de s'en sortir, devenir riche, mais sauver sa peau parce qu'on est en danger. Il y a cette idée pour moi aussi de sauver sa peau psychique. Quelquefois on se retrouve dans une famille ou dans un environnement social, sociétal, dans lequel on se sent enfermé, contraint, asphyxié. Et donc, quelquefois, ça sert aussi à sauver sa peau psychique, c'est-à-dire j'ai besoin d'un ailleurs. Donc, et moi, je trouve que de plus en plus, à écouter la parole du migrant, qui ne va pas être forcément tout de suite ce qui vient, en contexte de mobilité professionnelle, en contexte de migration plus vaste, il y a, à mon sens, souvent une deuxième motivation qui est cachée, qui quelquefois n'est pas vraiment visible pour le sujet, n'est pas forcément entendable au premier abord, mais qui est liée à sa place dans sa famille d'origine, dans son pays, l'idée de ne pas peut-être trouver sa place, de se sentir dans une période de désarrimage, de désappartenance. Je pense que la migration, elle arrive souvent dans un moment de crise. Crise ne veut pas dire quelque chose de négatif, mais où le sujet passe par une période un peu avide qui le rend avide de découverte. Donc ce mouvement-là, à mon sens, c'est quelque chose qu'on va pouvoir toucher de près si on le pense quand on est professionnel, si on donne à la possibilité au sujet d'aller parler de ça et d'aller rencontrer cette idée-là ou même cette envie-là plus profonde. Et donc ça, c'est aussi le rôle des professionnels pour éclairer les réelles motivations. On va dire, il y a les motivations dissibles au premier abord et il y a les motivations inconscientes ou pas forcément dissibles parce que le sujet n'a pas vraiment réalisé. Mais surtout, il y a un désir incompressible d'un ailleurs.
Un désir incompressible d'un ailleurs, c'est aussi un désir de vie, pour vivre, tout simplement. Et justement, est-ce qu'on se met pas à la place, assez à la place peut-être de ces migrants, avec des guillemets, bien évidemment, parce que c'est vrai que souvent, on est suspicieux de pourquoi quelqu'un est migrant, pourquoi il a quitté ou elle a quitté son pays. Pourquoi on a cette image, on l'a évoqué en début d'interview, péjorative de ces personnes qui viennent sur un autre territoire, alors qu'en fait, souvent, c'est des raisons de vie ou de mort.
Oui, mais parce qu'on a quand même toujours cette crainte de l'autre qui nous envahit. Ça, c'est aussi éminemment humain. Il y a un autre qui m'envahit, qui prend ma place, qui peut me
remplacer,
presque m'engloutir. C'est très intéressant. Ça, moi, je suis migrante. Je suis brésilienne, je vis en France depuis 23 ans. Je suis migrante. C'est très souvent que quand je dis « mais je suis migrante », les gens me disent « mais non, pas toi ». Ah ben oui, je suis migrante.
Et souvent, il y a cette double étiquette « expatrié-migrant » et on a l'impression que les personnes qui ont un certain statut social sont expatriées et ceux qui sont un peu plus déclassés sont des migrants.
Exactement. Et donc, c'est presque une insulte de dire « migrante ». Or, j'adore ce mot. Je trouve que c'est un mot qui décrit vraiment des choses. Les personnes que je rencontre qui ont fait un parcours migratoire sont des personnes courageuses, qui ont de l'énergie, qui ont envie de réussir et de vivre dans un autre pays. C'est-à-dire que très souvent, les migrants, ils partent de leur pays, ils sont en très bonne santé, ils ont envie de s'en sortir. Et c'est quelquefois un parcours presque indicible, impensable, inimaginable pour nous, qui abîme les personnes, qui les détruit. Et puis l'arrivée en terre d'accueil, quelquefois, sans l'assistance nécessaire, sans les accompagnements nécessaires, qui rendent le sujet aussi malade ou qui amplifie la maladie ou l'état de stress post-traumatique de certains, mais ce sont des personnes très admirables par toute l'énergie qu'ils emploient. J'ai côtoyé à la Maison des Lales les lundis matin dans un groupe de parole pour des femmes venues d'ailleurs. Je suis bénévole à la Maison des Lales, qui est un lieu qui accueille des femmes victimes de violences. Là, c'est des femmes venues d'ailleurs, victimes de violences dans le pays d'origine, dans le trajet migratoire, mais aussi en terre d'accueil, donc à savoir en France. Et c'est des femmes admirables, d'une énergie et d'une intelligence vraiment remarquables. Donc c'est vrai que je pense que par méconnaissance, on met tout le monde un peu dans un lot et on a du mal à voir le sujet, l'individu. Et quand on dit « je suis migrante, ma fille est migrante », mes enfants sont enfants de migrants, mais ma fille est migrante puisque maintenant elle habite en Espagne pour ses études. C'est une migration. Sur le plan émotionnel, psychologique, relationnel, les éléments sont semblables dans la mobilité et dans la migration. C'est-à-dire que je rencontre des expatriés qui vivent la perte de manière douloureuse, qui vivent le fait de devoir apprendre une autre langue de manière douloureuse et excluante, se sentent déracinés, perdus. Donc, sur le plan psychologique, émotionnel et affectif, on retrouve certains éléments semblables dans différentes modalités migratoires.
Et justement, la migration, c'est aussi le rapport à l'exil, quelque part. Cela fait écho au fait d'être loin de chez soi, de ce qui est familier, de ce qui nous rassure, de ce qu'on connaît. Comment vous abordez cette question de l'exil dans votre approche psychologique et systémique dans cet ouvrage ?
Mais je trouve que c'est très, très intéressant comme question, parce que de manière indifférenciée, on utilise le terme exil, parce que pour tout ce que vous dites là, pour des raisons quelquefois affectives, émotionnelles, pour la réelle expérience de étrangeté, d'éloignement du familier, c'est une forme d'exil. Alors nous, on entend souvent l'exil comme on est contraint de quitter son pays, sauf que la condition d'exil, c'est aussi la condition de je ne peux pas rentrer chez moi quand je veux, au quotidien je ressens des manques, au quotidien j'ai le sentiment d'avoir perdu et de ne pas pouvoir profiter de certaines choses de ma culture, de mon pays, de ma famille. Et puis, en ayant traversé la COVID, nous avons expérimenté le fait de ne pas pouvoir nous déplacer. Et donc, ce sentiment d'emprisonnement, d'exil, j'ai entendu dans le récit de nombreux patients qui pouvaient se dire « mais je veux rentrer chez moi ». Alors que avant, dans la thérapie, cette question ne se posait pas. Ils pouvaient avoir le sentiment de la France était devenue chez eux après 30 ans de vie en France, après 25 ans de vie en France. Enfin, je pense à un monsieur qui était venu en France, il avait 16 ans. Il était en thérapie, il avait 46 ans, il avait vécu 30 ans en France, 16 ans dans son pays d'origine. Tout d'un coup, dans ce moment de menace, de danger, il dit « je crois que je vais rentrer chez moi ». Et jamais il avait utilisé le terme de son pays d'origine comme « chez moi ». Et il avait souvent dit « bah ici c'est chez moi, je suis chez moi en France, c'est mon pays, nanana ». Et là, au moment de tension, c'est pour ça que je pense réellement que la migration, c'est quand même un mouvement qui ne se termine jamais. Ça n'a jamais de fin, la migration, dans la tête du sujet. Et puis, je me disais, tiens, c'est intéressant parce qu'eux, ils peuvent dire, et moi aussi, je pouvais dire, je vais rentrer chez moi. Mais l'autochtone, il n'y a pas cette possibilité. Parce que l'autochtone, il n'a pas un ailleurs. Il est d'ici, il est né ici, ses racines sont ici. Sauf les autochtones qui ont la chance de construire un ailleurs. Mais sinon, l'horizon est celui-ci. Pour les personnes venues d'ailleurs, elles ont la chance de penser à un ailleurs possible dans des moments de crise, même si elles ne vont pas forcément utiliser cette carte. Moi, c'était impossible d'utiliser la carte « Je rentre au Brésil ». C'était Beyrouth au Brésil, c'était terrible, c'était vraiment... c'était pas pensable de retourner. Néanmoins, il y avait quand même ce possible-là. Et je trouve que c'est des fenêtres qui s'ouvrent quand même vers un ailleurs.
Il y a le récit des individus, leur témoignage en tant que migrant. Ce n'est pas un mauvais terme d'ailleurs, c'est juste, il décrit la situation telle qu'elle est. Et il y a aussi le récit médiatique. Est-ce que vous pensez que le discours et le traitement médiatique contribuent aussi à cette image péjorative qu'on a évoquée de la migration et des mobilités de ces fameux migrants? Est-ce qu'il n'y a pas un travail de déconstruction à faire au niveau du discours et d'un imaginaire qui est déjà propagé aujourd'hui?
Totalement. Le pays d'accueil, ses représentants, les médias, les politiques de l'État, la façon dont l'école accueille les enfants venus d'ailleurs, les enfants de migrants, qui quelquefois sont nés en terre d'accueil, hein, est très très importante sur le ressenti de l'exil, sur le ressenti et sur l'expérience de cette multiculturalité. Donc oui, l'État joue un rôle très important et faisons attention parce que peut-être qu'on a aussi les migrants qu'on mérite, c'est-à-dire la façon qu'on a de traiter les personnes, ça reste des traces dans leur famille sur plusieurs générations. Donc l'autre jour, j'ai entendu... quelqu'un m'a fait entendre un commentaire d'un présentateur de télé qui dit « Est-ce que les punaises de lit, c'est pas lié à la migration ?» C'est-à-dire, comment on peut soulever une question de ce genre? C'est humiliant, c'est rejetant, c'est vraiment indescriptible comme ça peut être blessant pour celui qui vient d'ailleurs et qui se dit mais en fait lui il pense que c'est moi qui amène ces bestioles en France. Donc un parent qui se sent humilié, qui se sent honteux, forcément va transmettre ce ressenti à son enfant même s'il ne veut pas, même s'il ne l'envoie pas comme un message. Mais là, on le dit dans ce livre là, la transmission, ça transpire. On ne choisit pas ce qu'on transmet. Donc, on ne choisit pas toujours ce qu'on transmet. On choisit de transmettre certaines choses, mais pas tout. Donc, un enfant qui sent son parent humilié, maltraité, malmené, honteux, ben, c'est un enfant, comme dit Aldo Nauri, on s'intègre par la revanche ou par la vengeance. Donc, c'est un enfant qui doit choisir un camp à ce moment-là. Donc, nous sommes, en tant que société d'accueil, aussi responsables de le vivre en exil et le vécu des personnes en exil et finalement leur réussite ou leur échec.
Et une dernière question, comment s'informer et mieux aborder la question des migrations et des mobilités?
Alors, sur le plan psychologique, enfin, du domaine de la psychologie en tout cas, pas sur le plan psychologique, dans le domaine de la psychologie, il y a ces ouvrages, plusieurs articles que j'ai pu publier dans différentes revues scientifiques, donc il faut chercher Ividor sur Internet. Et puis, il y a aussi un séminaire qu'on anime avec deux autres collègues, Stéphanie Mousset et Jésine Sturm, qui s'appelle Les Mardis de la Clinique Interculturelle. C'est ouvert à tous, c'est un webinaire. Je peux laisser les coordonnées, je n'ai pas par cœur, mais bon. Ça aussi, vous pouvez me chercher sur Internet et puis me trouver, et puis je vous donnerai les coordonnées. C'est 5 rencontres par an, les mardis de la Clinique Interculturelle, donc le mardi, et c'est gratuit, par exemple.
Et pour terminer sur donc votre dernier ouvrage, Mobilité et Immigration, il y a une rencontre de prévu, c'est le mercredi 11 octobre.
Exact, à la librairie Georges à 18h. Et puis il y aura aussi un webinaire prévu le 23 novembre à 18h30, gratuit aussi pour ceux qui ne sont pas à Bordeaux.
Ividor, merci beaucoup. Merci d'être venu sur notre antenne, d'avoir répondu à nos questions.